France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le retour aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014 est un objectif irréaliste et les pays européens devront assurer l'écrasante part de l'aide civile et militaire à l'Ukraine. Avertissement du nouveau secrétaire américain à la défense devant les membres de l'OTAN à Bruxelles où nous joindrons Pierre Binazet. En froid avec Moscou, l'Arménie veut ouvrir des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Nous analyserons cette initiative avec Marie-Pierre Véraud. François Bayrou dénonce des polémiques artificielles. Le Premier ministre dit ne pas avoir été informé d'agression sexuelle dans un établissement scolaire fréquenté par ses enfants. Des députés de l'opposition l'accusent de mensonge et l'appellent à démissionner. Explication d'Antoine Marette. Et puis la Ligue professionnelle de football assigne en référé le Britannique DAZN. Le principal diffuseur des matchs de Ligue 1 menace de ne payer qu'une partie des droits télé. Les clubs redoutent une grosse perte de revenus. Les Européens sont désormais fixés sur la position des États-Unis au sujet de l'Ukraine. Le nouveau secrétaire américain à la Défense est à Bruxelles, au siège de l'OTAN. Et dans sa première intervention cet après-midi, Pete Hegseth a clairement tracé les lignes rouges que les États-Unis imposent concernant leur participation à l'OTAN et leur soutien à l'Ukraine. Nous retrouvons notre correspondant à Bruxelles. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir.
Alors il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre.
Effectivement, mais au moins ça a le mérite d'être clair et les Européens n'ont plus besoin d'être fébriles comme ils l'étaient. Ils savent enfin que la Maison-Blanche maintient la présence des États-Unis dans l'OTAN. C'était une de leurs inquiétudes majeures. Ils sont aussi très partiellement rassurés pour l'Ukraine après les derniers propos de Donald Trump qui imaginait que l'Ukraine pourrait redevenir russe. Pete Hegseth le dit sans embâge, il faut une solution négociée et des garanties de sécurité pour que la Russie ne réattaque pas. En revanche, le nouveau ministre américain de la Défense met les pieds dans le plat. L'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN et elle devra céder des territoires. On comprend mieux maintenant pourquoi le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui-même évoqué cette perspective. Par ailleurs, si les Européens peuvent être en partie rassurés pour le maintien de la garantie de sécurité américaine, ils savent désormais qu'elle ne s'appliquera pas à l'Ukraine, qu'ils devront eux-mêmes fournir les troupes de maintien de la paix, qu'il n'y aura pas de soldats américains. Et ils savent aussi qu'ils vont devoir maintenant financer eux-mêmes vraiment leur propre défense. Une augmentation des dépenses considérables, les États-Unis leur demandent d'atteindre 5% de leur PIB, un objectif très lointain, puisque un tiers d'entre eux n'arrive même pas à 2%.
Merci Pierre Benazet, en direct de Bruxelles. Alors justement, revenons sur ces dépenses militaires que les Européens vont devoir augmenter. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'avait lui-même souligné cet après-midi. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Aurélie.
Alors qui, a priori, va devoir faire le plus d'efforts?
Eh bien absolument tout le monde, États-Unis compris, si on parle bien d'un objectif à 5% du PIB en matière de dépenses militaires. Pratiquement tout le monde, presque tout le monde, si on parle d'un objectif à 3%, sauf donc les pays baltes, la Pologne et les États-Unis. Mais en fait, il y a d'abord cet objectif sur lequel s'étaient engagés tous les pays de l'OTAN, essentiellement les pays européens, objectif financier de consacrer un minimum de 2% de leur produit intérieur brut à la défense. Alors, on n'en est pas encore là pour tout le monde. Fin 2024, seuls 23 des 32 pays de l'Alliance ont des dépenses militaires qui atteignent ou dépassent ces 2%. Parmi les mauvais élèves, beaucoup de tout petits pays européens, la Croatie, le Portugal, la Slovénie, la Belgique ou le Luxembourg par exemple, mais aussi quelques-uns plus importants en termes économiques comme l'Italie, et surtout l'Espagne, bonne dernière de ce classement, avec à peine 1,28% de son PIB consacré à la défense. À l'autre bout du spectre, les bons, voire les très bons élèves sont les pays baltes ou la Pologne, qui ont mis les bouchées doubles en matière de dépenses militaires. Appétit de dépenses en équipement et en armement, évidemment boosté par la crainte de voir leur voisin immédiat, la Russie, se transformer en agresseur. Pour eux, ce ne serait pas la première fois. Autant de pays où ces dépenses de sécurité sont largement consensuelles et soutenues par la population. À l'autre bout du continent européen, en revanche, en Espagne, où on ne compte pas d'ennemis proches, c'est une toute autre histoire. L'Espagne est volontiers pacifiste et la totalité du spectre politique s'accorde là-dessus, de même que la population. Il faut dire que le souvenir des presque 40 ans de régime militaire du général Franco entre 1936 et 1975, puis de la tentative de coup d'état militaire de 1981, n'incite pas particulièrement les Espagnols à vouloir doter leurs militaires d'une force trop importante.
Éric Biegala, et ce soir le Kremlin fait savoir que Vladimir Poutine a invité le président américain Donald Trump à se rendre à Moscou. L'Arménie veut ouvrir des négociations pour rejoindre l'Union européenne. Le Parlement arménien vient en première lecture de voter un projet de loi demandant son adhésion à l'Union. On sait que Erevan en froid avec Moscou, son allié traditionnel depuis les guerres du Karabakh et notamment la dernière à l'automne 2023, qu'il a vu perdre l'enclave du Haut-Karabakh au profit de l'Azerbaïdjan. C'est donc un signe de plus, Marie-Pierre Véraud, de la volonté de l'Arménie de forger de nouvelles alliances.
C'est en effet plus un signal qu'une demande formelle. Signal bien sûr envers l'Europe, plébiscité par la population qui souhaite un rapprochement. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian envisage d'ailleurs un référendum sur la question. Si la Moldavie ou l'Ukraine ont un statut d'État candidat, pourquoi pas nous ? Demande un historien. L'Arménie a déjà renforcé sa coopération en matière de défense avec la France et a mené des manœuvres conjointes avec les États-Unis. C'est une étape de plus et un nouveau pied de nez à Moscou après l'adhésion à la Cour pénale internationale. L'opposition pro-russe dénonce un mouvement qui obligerait Erevan à sanctionner l'Iran ou la Russie, ses partenaires historiques, et la mettrait en difficulté. Moscou note, perfide, que d'un point de vue économique, l'Arménie dépend beaucoup plus de la zone eurasiatique, vers laquelle elle envoie 43% de ses exportations, 5 fois plus que vers l'UE, et que l'adhésion à l'Union européenne est incompatible avec celle à l'Union eurasiatique. Cette adhésion serait, pour le vice-ministre russe, comme l'achat d'un billet pour le Titanic. Mais Erevan, échaudé par le lâchage de Moscou face à l'Azerbaïdjan, regarde désormais de plus en plus vers l'Ouest et attend avant tout des garanties de sécurité. Ce vote signe sa volonté de ne pas être oublié par les 27.
Marie-Pierre Véraud, la guerre va-t-elle reprendre à Gaza ? Le ministre israélien de la Défense en brandit en tout cas la menace, appelant de nouveau le Hamas à libérer les otages retenus dans la bande de Gaza. Mais le Hamas et son allié, le djihad islamique, affirment qu'ils ne céderont pas. Les médiateurs qataris et égyptiens continuent de mener des négociations pour tenter de sauver la trêve. François Bayrou, sous la pression devant les députés, le Premier ministre a une nouvelle fois été mis en cause lors des questions au gouvernement après un article de Mediapart. Selon le média en ligne, le Premier ministre aurait menti sur sa connaissance des violences et agressions sexuelles dont sont soupçonnés des membres de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétaram entre 1970 et 1990. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir Aurélie.
Dans l'hémicycle, la gauche a relayé avec vigueur les accusations de Mediapart.
Avec comme sniper en chef une nouvelle fois le député insoumis Paul Vannier qui réclame la démission de François Bayrou.
Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violence sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable.
François Bayrou garde le silence dans un premier temps. C'est le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui répond aux députés.
Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité, ça nous changerait.
Paul Vannier dénonce le silence du Premier ministre, rejoint quelques minutes plus tard par l'écologiste Arnaud Bonnet.
Monsieur le Premier ministre, vous étiez ministre de l'Éducation nationale, président du département des Pyrénées-Atlantiques, maire de Pau. Vous aviez tous les leviers pour protéger ces enfants et vous auriez choisi de ne pas le faire. Vous nous devez, monsieur le ministre, des réponses claires. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner.
François Bayrou prend finalement la parole et maintient sa version de la veille.
Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire, soutenir n'importe quel argument. J'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information. Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet.
De son côté, le Parti socialiste reste plus mesuré dans ses attaques contre François Bayrou. Dans un communiqué, le PS estime, je cite, que le Premier ministre doit la vérité sur cette affaire aux victimes et à la représentation nationale.
On ne pensait pas reparler si vite de Villeneuve-Saint-Georges après l'élection municipale anticipée qui a vu l'insoumis Louis Boyard échouer le 2 février. La commune du Val-de-Marne est aujourd'hui dans le viseur de la Chambre régionale des comptes. Alors ce qu'épingle la Cour, c'est la gestion du précédent maire à la tête de la ville de 2020 à fin 2024. Elle relève des dysfonctionnements majeurs depuis 2022, notamment en matière de règlement de factures, d'heures supplémentaires ou d'usage des véhicules. Des révélations qui interviennent dans une situation politique particulièrement tendue, Cyril Ardo.
Oui, car la nouvelle maire, Christelle Niasme, en fonction depuis lundi, a été un temps la première adjointe avant de passer dans l'opposition dès 2021. Depuis, les relations entre l'ancien maire et elle sont pour le moins tendues et Christelle Niasme tire à boulet rouge sur son prédécesseur et son bilan.
Pour moi, ça a été la confirmation de ce que j'ai dénoncé pendant de nombreuses années. C'est ce qui fait que je me suis écartée de cette majorité et du maire sortant. J'ai vu les risques qu'encourait notre ville, surtout, à prendre cette voie en matière de gestion. Cet audit flash vient mettre des mots sur une réalité que je n'ai que malheureusement que trop dénoncée.
Aucune alerte sur l'état des finances de sa part, jure de son côté l'ancien maire Philippe Gaudin, qui estime que cet audit de la CRC, la Chambre régionale des comptes, est une charge contre lui. Les 3,5 millions d'euros de factures impayées, un logiciel de gestion trop compliqué et des signatures manquantes, les 42 000 heures supplémentaires d'agents communaux en 2 ans, des prestataires qui ne remplissaient pas leur mission et dont il fallait faire à leur place une partie du travail.
Il y a plein de choses qu'on a expliquées. La CRC n'en a pas tenu compte. Elle a juste joint 2 courriers, je crois, signés de ma main. Mais il y avait d'autres choses annexées où on expliquait point par point aux questions qu'on pouvait se poser. On a tout expliqué. J'ai rien retrouvé de tout ça dans le rapport final, monsieur. Et j'en veux beaucoup au système parce que j'aurais bien aimé m'expliquer.
Passe d'armes donc entre opposants politiques sur fond d'une situation pas si exceptionnelle que ça. En 2024, les chambres régionales des comptes ont publié environ 1000 rapports sur des collectivités locales et les critiques sur leur gestion sont courantes selon un spécialiste des finances publiques.
Les parlementaires s'attaquent une fois encore à la justice des mineurs. En 2021, quand elle était garde des Sceaux, Nicole Belloubet avait remodelé le cadre législatif, notamment pour accélérer les procédures juridiques concernant les mineurs. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui a déposé un texte pour modifier à nouveau ce cadre et surtout pour le durcir avec des mesures de comparution immédiate, de sanction des parents, voire de dérogation à l'excuse de minorité. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Aurélie.
Pour protester contre ce projet de loi, le syndicat majoritaire des agents de la protection judiciaire de la jeunesse a appelé à des rassemblements devant les tribunaux dans toute la France et aussi place des Invalides à Paris où vous êtes allés.
Oui, à quelques pas de l'Assemblée nationale, une poignée d'éducateurs principalement syndiqués sont venus à ce rassemblement. Parmi eux, Christine Silva, éducatrice depuis 1995.
Là, ce qu'est en train de nous proposer le gouvernement, c'est non seulement il faut aller vite, mais il faut réprimer, il faut brimer, il faut les sanctionner comme des adultes aussi, donc ne plus les considérer comme des enfants, donc vraiment ne plus les éduquer. Et moi, je trouve que c'est très grave, en tant que professionnelle, en tant que citoyenne et en tant que mère de famille aussi.
Le projet de loi Attal souhaite aussi sanctionner les parents de mineurs délinquants, contre-productif pour Mathieu Moreau, éducateur de la PJJ à Dijon.
Le suivi éducatif de la PJJ, c'est aussi du soutien à la parentalité. Donc ce dont ils ont besoin, c'est de notre intervention. Pas forcément une amende qu'ils pourront peut-être même pas payer. Donc tant qu'il n'y a pas d'action éducative qui permette aussi de relier les parents et leurs enfants. Souvent, nous, quand on arrive dans une situation, on voit bien qu'il y a un lien familial qui est rompu, un lien affectif, un lien social. Parfois, les parents sont éloignés aussi. Donc, notre premier travail, c'est de réunir tout le monde. Et donc, effectivement, encore une fois, c'est pas une contravention qui va permettre de faire évoluer positivement la situation de ces familles-là.
Marc Hernandez, co-secrétaire national du syndicat PJJ-FSU, éducateur à Clermont-Ferrand, regrette que l'on oublie de parler de l'essentiel, à savoir le manque de temps et le manque de moyens pour s'occuper des jeunes dont ils ont normalement la charge.
Les professionnels passent leur temps en audience à écrire des rapports et on voit de moins en moins les enfants. On a une charge de travail qui s'est accentuée et on a un temps passé avec les jeunes qui est moindre. Et c'est vrai que où est la place des éducatrices, des éducateurs, des psychologues, des assistants sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse? Très certainement plus auprès des enfants que devant un ordinateur à taper des rapports. Si on ne voit pas les enfants, c'est problématique et les prises en charge ne seront pas de qualité.
L'examen du texte se poursuivra demain à l'Assemblée nationale.
Wafia Kenich, Sciences Po doit-elle prendre position sur l'actualité politique? La question se pose depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mouvement qui a enflammé le campus parisien au printemps dernier, quand une partie des étudiants avait demandé à la direction de reconnaître les crimes commis à Gaza. Et la tension est remontée cet hiver après l'interdiction d'une conférence de la députée insoumise Rima Hassan. Depuis Mathilde Cariou, un nouveau directeur a été nommé et il vient de présenter sa nouvelle doctrine pour le positionnement institutionnel de l'école. Le maître mot, la réserve en matière politique.
Oui, car Sciences Po n'est ni une association, ni une ambassade. Elle ne peut pas entrer en politique, a justifié son directeur, Louise Vassy, ce matin sur France Inter.
Si nous y entrons, nous serons traités comme un objet politique et donc nous pouvons être la cible d'attaques politiques. Et puis il y a un deuxième argument qui est que si nous prenons position sur des sujets politiques, nous risquons de porter préjudice à la liberté d'expression de ceux dont l'opinion serait minoritaire.
La direction ne prendra donc position qu'en cas de conflit sur les missions qui sont les siennes. Marie Mawad, doyenne de l'école de journalisme, donne un exemple.
Un cas où il y aurait une ingérence sur ce qui est enseigné à Sciences Po, la manière dont c'est enseigné, les thématiques de recherche qui sont menées.
Dans ce cas et dans ce cas seulement, Sciences Po pourra intervenir, c'est ce que la direction appelle le recentrage. Alors cette réserve affichée n'est pas tout à fait au goût des étudiants qui demandaient depuis l'an dernier une clarification du positionnement politique de Sciences Po.
Il a quand même précisé que ça ferait plutôt l'objet d'un débat en fonction des sujets. C'est juste un moyen pour dire qu'on va pas s'exprimer sur ce qui se passe en Palestine.
Typiquement, moi, j'ai du mal à me dire que je vais étudier dans une école qui ne pourra pas condamner un salut nazi fait par un membre de l'administration américaine. Moi, c'est quelque chose qui me choque.
Ça devrait être une fierté pour Sciences Po d'avoir des étudiants qui savent se mobiliser, qui savent prendre position sur ces sujets qui sont importants. Quand on nous parle d'être les futurs leaders de demain, parce qu'ils adorent toujours nous rabâcher ça, qu'on est une élite, etc., mais qu'on ne doit pas prendre position sur ces questions, il y a quand même une ambiguïté qu'on peut questionner.
La direction précise que la liberté d'expression est et sera toujours garantie. Restent trois questions en suspens à étudier dans les prochains mois. Celle des partenariats avec les universités étrangères, celle des dons reçus par l'école et celle des personnes invitées par les organisations étudiantes.
Mathilde Cariou et nous parlons maintenant sport, ou plus précisément économie du sport, car le torchon brûle entre DAZN et le foot français. Le litige qui oppose le diffuseur des matchs du championnat de France prend une tournure juridique. La plateforme britannique devrait régler d'ici vendredi sa traite pour le mois de février, sauf que, bonsoir Julien Froment,
bonsoir.
Elle n'a versé que la moitié de cette somme et ça met le football français en émoi.
Effectivement, la Ligue de football professionnel a assigné DAZN en référé pour non-paiement de l'intégralité de la somme prévue pour le mois de février. La plateforme britannique qui diffuse 8 des 9 matchs de championnat chaque week-end avait menacé de le faire. Elle a mis son plan à exécution, ce qui a provoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de la LFP qui se tient en ce moment même en visioconférence. L'inquiétude monte du côté des clubs pro, car les droits TV, c'est un enjeu vital. Cela représente entre 40 et 60% du budget de fonctionnement de ces clubs. DAZN refuse de payer, car elle s'estime lésée, pas assez soutenue par la Ligue de football professionnel, notamment sur la question du piratage, de la mise en valeur de la Ligue 1. Pour rappel, DAZN, pour le moment, n'est parvenu à réunir que 500 000 abonnés, alors que l'objectif fixé était d'1,5 million d'abonnements d'ici décembre 2025. Elle est désormais bien loin l'époque où le président de la Ligue du foot professionnel, Vincent Labrune, répétait à l'envi vouloir, je cite, le succès à tout prix de DAZN.
Un litige qui pourrait donc avoir des conséquences majeures. Merci Julien Froment. Si le nombre de fermetures d'usines augmente en France, le secteur aéronautique lui se porte bien. La demande mondiale est en hausse et avec plus de 10 000 commandes, Airbus a un carnet plein pour les 10 prochaines années. Et un savoir-faire qui n'est plus approuvé. D'ailleurs, l'avion chinois C919, avec lequel Comac espère bien concurrencer l'Airbus A320 et le Boeing 737, cet avion chinois est équipé en grande partie de pièces provenant d'Europe et plus particulièrement de France, Hakim Ghasmi.
C'est pour être le plus performant possible par rapport à Airbus et Boeing, qui dominent le marché mondial de l'aéronautique, que le constructeur chinois Comac a fait le choix d'équiper son C919 d'éléments français. Et pas des moindres, à commencer par les nouveaux moteurs de Safran, le LEAP, qui permet d'économiser jusqu'à 15% de carburant. En effet, ce sont les mêmes moteurs qui sont installés sur l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX. Safran fournit également l'intégralité des câbles électriques et même les toboggans d'évacuation ou encore les portes blindées des cockpits. Résultat, chaque avion vendu rapportera à l'équipementier français 14,5 millions de dollars. De son côté, Thales fournit aussi les systèmes de vidéo de divertissement à bord et il a même créé une contreprise avec le chinois ETC. Pour autant, à terme d'ici 2049, la Chine espère bien devenir autonome pour ne plus dépendre des équipementiers occidentaux, comme l'explique Pascal Fabre, expert en aéronautique auprès du cabinet Alex Partner.
La Chine travaille sur toutes ces technologies. Elle travaille sur des technologies de moteurs domestiques. C'est ce qu'elle fait sur la partie aviation côté défense, donc pour les chasseurs notamment. Mais la fiabilité qui est nécessaire pour opérer un avion dans le domaine civil, elle est beaucoup, beaucoup plus importante parce qu'un avion, il vole plusieurs milliers d'heures par an, alors qu'un avion de chasse, il vole quelques centaines d'heures par an. Donc la fiabilité et le niveau nécessaire est très différent.
En attendant, dès que la production du Comac C919 sera à plein régime, avec 150 avions produits par an d'ici 2030, l'avionneur chinois représentera à cet instant 22% des ventes de moteurs de Safran.
Hakim Kasmi, la météo, il faudra encore compter avec des passages pluvieux demain, surtout à l'est. Le soleil s'imposera sur le pourtour méditerranéen. De faibles gelées au petit matin dans le nord-est, 5 à 9 degrés plus au sud. Et l'après-midi, seulement 3 à 7 degrés sur le tiers nord, mais 13 à 17 sur le quart sud-ouest et au bord de la Méditerranée.